la Banque Van Breda, vous méritez plus de temps. Plus de temps libre pour écouter le brief pendant que nous nous chargeons activement de votre liberté financière. Banque Van Breda.
Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 3 mai et voici notre regard sur l'actualité, l'essentiel pour celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre.
Le brief de l'écho.
Ce jeudi, le projet de loi Frontex a été adopté par la Chambre. Le personnel de l'agence européenne Frontex pourra participer sur le sol belge au retour forcé de migrants et les critiques fusent. Ça sent l'échec en Wallonie. La méthode budget base zéro était censée rationaliser les dépenses. Au final, elle n'aura permis d'économiser que 200 millions d'euros, loin de l'objectif de départ d'1,5 milliard. Nous verrons pourquoi. En Belgique, l'absentéisme au travail n'a jamais été aussi bas. Les maladies de longue durée atteignent des records, mais d'autres causes d'absence sont plutôt en baisse. Je suis Ondine Moires et vous écoutez le brief.
Le brief, cette info dès 7h.
Hier, la Chambre a adopté à une large majorité la loi Frontex. Frontex, c'est l'agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes. Et dans les prochaines semaines, 100 de ses agents pourraient être déployés en Belgique pour venir en aide à la police fédérale. Les agents Frontex pourront intervenir dans les aéroports, les ports maritimes, la gare de Bruxelles-Midi ou encore au terminal Eurostar. Ils viendront de toute l'Europe, mais ils seront formés aux règles belges, notamment sur la question du port d'armes. Mais le déploiement de ces agents suscite l'inquiétude, voire la colère de plusieurs associations. Frontex est là pour faciliter la mise en place du pacte migratoire européen, mais pour le monde associatif, il s'agit plutôt d'une forme de collaboration avec les gardes-côtes libyens, reconnus coupables de torture, de viol ou encore de travail forcé. Des débordements reconnus par différents partis, même au sein de la majorité d'ailleurs. Mais pour Philippe De Breuker, professeur spécialisé en droit européen de l'immigration à l'ULB, les choses ont changé.
C'est vrai que Frontex a un passé sulfureux avec la démission du premier directeur de l'agence qui a couvert des agissements qui ont été dénoncés même par l'OLAF, qui est l'organe de lutte antifraude de la Commission européenne. Mais aujourd'hui, les circonstances ont changé. Il y a un nouveau directeur, il y a une nouvelle culture basée sur le respect des droits de l'homme qui est apparue au sein de l'agence. Donc on peut dire qu'une page a été tournée.
Pour Philippe De Breuker, une autre question se pose plutôt, c'est celle de l'utilité réelle d'agents Frontex en Belgique.
La Belgique, me semble-t-il, devrait pouvoir se débrouiller seule et engager elle-même du personnel. La Belgique n'est pas dans une situation où elle fait l'objet d'une charge disproportionnée comme d'autres États dans l'Union européenne, par exemple la Grèce. Alors on peut comprendre que la Belgique ait besoin d'une aide momentanée, temporaire, pour faire face à une situation exceptionnelle. Mais je ne sais pas pour le moment quelles sont ces circonstances exceptionnelles auxquelles la Belgique fait face. Toujours est-il que pour répondre à des besoins structurels, Frontex n'est pas là pour remplacer les autorités belges qui devront à terme pouvoir se débrouiller sans Frontex.
Cette loi Frontex, elle a été votée par tous les partis, sauf le PTB et DEFI. Et si vous voulez connaître la position des partis sur les questions migratoires notamment, allez voir le guide élection de l'Écho. Il compare les programmes des différents groupes politiques francophones. Je vous mets le lien dans les notes de cet épisode. Les ventes d'Apple sont en baisse, mais moins que prévu. Les résultats de la marque à la pomme étaient largement scrutés par les marchés à la clôture hier soir. Son chiffre d'affaires trimestriel a diminué, certes, mais il dépasse tout de même les attentes des analystes. Ce sont les ventes d'iPhone qui pèsent le plus sur la croissance du groupe. Elles ont chuté de plus de 10% ce trimestre. Apple fait face à une concurrence acharnée, notamment en Chine avec Huawei. Le CEO Tim Cook entrevoit par ailleurs un retour à la croissance dans les prochains mois. Il a peu parlé de ses projets en matière d'intelligence artificielle. Le géant est pourtant largement attendu au tournant sur ce point parce qu'il semble prendre du retard sur ses rivaux Microsoft et Google. Enfin, Apple en a profité pour annoncer un programme sans précédent de rachat d'actions de 110 milliards de dollars. Les marchés ont bien accueilli ces résultats. L'action Apple affichait une hausse de près de 3% alors qu'elle a connu une baisse d'environ 10% à Wall Street depuis le début de l'année. Grosse déception du côté de la région Wallonne et de son BBZ, le budget base zéro. Sur les 1,5 milliard d'euros d'économies espérées, ce sont 200 millions d'euros qui ont finalement été économisés. C'est ce qu'on appelle un grand écart. Le budget base zéro avait été initié en 2020 par Jean-Luc Cruc, à l'époque toujours MR et ministre wallon du budget, et a duré 2 ans. Cette méthode a été développée dans les années 60 aux États-Unis. Elle consiste à élaborer un budget sans prendre en compte les résultats du budget précédent. Pour nous en parler, nous accueillons Damien Piron. Vous êtes chargé de cours en administration publique à l'ULIÈGE. Vous avez co-rédigé avec Loris Gatti une étude sur ce budget base zéro. Concrètement, comment la région Wallonne a-t-elle mis en place cet outil ?
Dans la pratique, ce qui a été mis en place, ça s'assimile plutôt à une revue des dépenses. On a voulu passer en revue l'ensemble des dépenses de la région Wallonne en vue d'atteindre un double objectif. Réaliser des économies budgétaires. On a parfois entendu le chiffre de plus de 1,5 milliard d'économies à réaliser. Ça, c'est un premier objectif. Et l'autre objectif, c'était d'améliorer l'efficacité et l'efficience des dépenses Wallonne.
Ok, donc ce système, il n'a visiblement pas fonctionné comme espéré. Mais alors pourquoi ?
Il y a différents éléments qui peuvent être mis en évidence. Le premier, je l'ai dit, c'est que le ministre porteur du projet était surtout Jean-Luc Cruc, qui a quitté le gouvernement il y a 1 ou 2 ans, donc qui n'a pas pu mener le projet à son terme. Deuxièmement, il y a cette mise entre parenthèses des règles budgétaires européennes qui a diminué la pression à réaliser des économies budgétaires, en tout cas à court terme. Et puis, troisièmement, il y a aussi les conditions dans lesquelles le BBZ a été mis en place. C'est un exercice qui a été mené en région Wallonne par 2 entreprises de consultance, Roland Berger d'un côté et Deloitte de l'autre. Et il y avait parfois un décalage entre les techniques qui ont été adoptées par ces entreprises de consultance d'un côté et puis la réalité propre à l'administration publique.
Mais cet échec aura quand même été utile quelque part parce qu'il a servi de base à l'élaboration cette année des revues de dépenses wallonnes, un nouveau système d'évaluation de l'utilité des dépenses publiques. En région bruxelloise, cette fois, le ministre de l'Environnement Alain Marron ira finalement seul en recours contre le permis d'environnement de l'aéroport de Zaventem. Au départ, c'est l'ensemble du gouvernement bruxellois qui devait attaquer Bruxelles Airport, mais l'OpenVLD avait bloqué la procédure. Ce recours, Alain Marron le fait parce qu'il estime que les demandes du gouvernement bruxellois n'ont pas été rencontrées. Pour lui, le permis est déséquilibré. Il répond avant tout aux intérêts des compagnies aériennes et de l'exploitant de l'aéroport. Le ministre critique notamment le nombre de mouvements plus élevé que prévu. Et puis, il évoque aussi un manque de mesures en matière de bruit des avions, sur la suppression des vols de nuit ou encore sur le renouvellement obligatoire de la flotte par des avions moins bruyants. De son côté, le gouvernement wallon a également introduit un recours. Nouvel épisode dans la saga de décrochage d'onduleurs. Le dossier de l'indemnisation des prosumeurs touchés par un décrochage pour cause de surcharge du réseau est passé en 2e lecture au gouvernement wallon. La Wallonie revoit à la baisse les indemnités lors d'un décrochage. L'indemnisation annuelle pourra atteindre 440 euros par an au lieu des 480 annoncés précédemment pour les plus grosses installations. Enfin, un autre élément risque de ne pas faire plaisir aux prosumeurs. Il faudra disposer d'un compteur communicant pour introduire sa demande d'indemnisation. Pourtant, seuls 15% d'entre eux en ont un pour le moment. Le dossier devra encore faire l'objet d'une 3e lecture au gouvernement wallon après retour du Conseil d'État. Les travailleurs belges n'ont jamais été aussi peu absents en 5 ans. C'est un chiffre surprenant quand on sait, comme je vous le disais hier, que les maladies de longue durée comme le burn-out ou la dépression explosent régulièrement tous les records. Pourtant, le dernier baromètre annuel de l'absentéisme d'Acerta montre bel et bien une productivité qui s'est améliorée de 0,8% par rapport à 2022 parmi les 30 000 entreprises concernées par l'étude. Muriel Michel, vous vous êtes penchée sur ce dossier pour l'Écho. Comment peut-on expliquer ces chiffres d'absentéisme au plancher alors que ceux de certaines maladies de longue durée augmentent ?
Eh bien, Andine, tout simplement parce que même si les absences pour cause de maladie restent de loin les plus nombreuses, les travailleurs sont aussi absents pour d'autres raisons, notamment lorsqu'ils sont en vacances, quand ils profitent d'un crédit temps ou d'un congé parental, ou encore s'ils sont mis en chômage temporaire. Toutes ces absences prises globalement ont diminué l'an dernier. En moyenne, les travailleurs étaient présents pour plus de 83% de leur temps de travail. C'est donc plutôt positif pour la productivité des entreprises.
Oui, et puis les absences de longue durée, c'est un défi de taille pour les entreprises. Elles ne sont pas toutes touchées de la même façon d'ailleurs, Muriel.
Non, en effet, le problème est deux fois plus aigu pour les grandes entreprises où l'absentéisme culmine quand même à 10%, ce qui représente 25 jours perdus contre 12,5 dans les petites entreprises. C'est donc un problème auquel elles doivent s'attaquer, notamment en renforçant le bien-être au travail et en privilégiant des solutions, si possible, plus individualisées.
Merci Muriel. Je termine ce podcast avec une bonne nouvelle. Les émissions de CO2 de l'industrie belge enregistrent leur plus forte baisse depuis la crise financière. Parmi les entreprises à forte consommation d'énergie, il y a les producteurs d'acier, de ciment ou encore les usines chimiques. Eh bien, elles ont émis 10,5% de tonnes de gaz à effet de serre en moins sur un an. La baisse atteint même plus de 15% au niveau européen. Plusieurs facteurs expliquent cette tendance. D'abord, l'industrie est devenue plus efficace sur le plan énergétique, mais elle fait aussi plus attention à sa consommation depuis la crise énergétique et elle fait face à une diminution des demandes qui ont fait réduire sa production. Enfin, le solaire et l'éolien ont atteint un nouveau record, moins besoin d'énergie fossile donc. Et le vilain petit canard ici, c'est l'aviation. Le secteur a au contraire émis 4,6% de CO2 en plus l'année passée. 2023 a été en effet une année de grand cru pour le tourisme aérien. Brussels Airlines a par exemple vu son nombre de passagers augmenter de plus de 20%. C'est déjà la fin de ce brief et de la semaine d'ailleurs. Ce lundi, c'est Laurent Fabry qui vous retrouve avec un brief spécial élection. Son invité sera Sophie Merckx, responsable du groupe PTB à la Chambre. Merci à Nicolas Baudou et à Brian Momard d'avoir préparé cet épisode. Bon week-end à tous, à la semaine prochaine. Salut!